Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire Relations clients 2023. Quels défis à relever pour les acteurs du transport et de la logistique? Donc, on va être deux pour animer ce webinaire. Donc, j'ai le plaisir de co-animer avec Jean-François, notre spécialiste transport et logistique. Jean-François, je te laisse te présenter.
Oui, bonjour à tous. Donc, Jean-François Tournade. J'ai rejoint Eloquent en début d'année pour la petite histoire. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le milieu de l'expérience client et de la relation client. J'ai rejoint Eloquent parce que j'ai trouvé tout simplement qu'il y avait un positionnement qui était très particulier et que j'ai adoré. Mais ce sera l'occasion de vous présenter tout ça lors de la présentation évidemment d'Eloquent et de son positionnement.
Oui, donc moi, je suis Frédéric Canavette. Je m'occupe en fait des bots chez Eloquent, Product Manager Bot, mais également des projets digitaux et souvent des webinaires comme ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on va voir au sommaire de ces 30 minutes? En fait, Jean-François va rappeler brièvement qui est Eloquent pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, il y aura une petite vision macro, justement. Jean-François, qui connaît bien le secteur, vous dira quels sont les défis que vous connaissez déjà, mais un petit rappel. Ensuite, je vous présenterai l'étude qui a été menée auprès d'une quarantaine de personnes du secteur du transport et de la logistique, transport de personnes et transport, bien sûr, de marchandises. Et ensuite, on verra ensemble 6 cas pratiques d'excellence relationnelle à prendre en exemple dans le secteur du transport et de la logistique. Et bien sûr, à la fin, on verra une petite session de questions-réponses et une conclusion. Alors, pour commencer, Jean-François, je te laisse présenter Eloquent en quelques mots.
Oui, bien sûr. Donc, Eloquent, on est un éditeur de logiciels spécialisé sur l'expérience client, la relation client, avec une existence depuis plus de 20 ans maintenant. 3 en Europe, donc 2 sites en France, un site à Levallois, un site à Gières, où sont la majorité de nos équipes, et puis une antenne en Allemagne. Aujourd'hui, c'est plus de 120 experts, avec une croissance continue organique sur la croissance humaine. Et puis, on gère aujourd'hui pratiquement 1,5 milliard d'interactions par an. On va gérer 150 millions d'enquêtes par année également. On est très fiers aussi d'annoncer qu'on est certifié ISO 27001 et ISO 27701. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'état de l'art finalement sur tout ce qui est compliance et RGPD. Ça, c'est un positionnement voulu et une ambition très forte de notre direction pour rassurer notre client et être pionnier un peu en quelque sorte sur ces aspects-là. Et puis pour des éléments un peu plus macro, mais aujourd'hui c'est 320 clients, c'est à peu près une quarantaine de pays pour lesquels on intervient, on distribue nos solutions. Donc voilà, vraiment un écosystème et une maîtrise, on va dire, du sujet et une volonté de se déployer de plus en plus à l'international pour Eloquent. Alors, je le disais tout à l'heure en préambule, en me présentant, ce qui m'a fait rejoindre Eloquent, c'est son positionnement particulier. Il faut voir que sur Eloquent, vous avez finalement deux piliers qui sont intéressants. Le premier, c'est le pilier contact, solution contact, donc on va être dans finalement, tout ce qui est gestion des interactions clients. Et là, les interactions clients, aujourd'hui, elles sont multicanales, omnicanales. On va parler de voix, de mail, de chat, de réseaux sociaux, de médias digitaux. Voilà, c'est aujourd'hui la capacité d'Eloquent d'adresser finalement ces sujets-là avec une plateforme totalement omnicanale. Quand on parle de contact, mais on va également parler d'interface, d'intégration avec les CRM existants. On va également parler de self-care et d'automatisation des réponses aux demandes. Un très fort enjeu sur l'intelligence artificielle qui est au cœur de nos solutions de contact. Et puis, à l'autre bout, vous avez quelque chose qui est très complémentaire, qui sont les solutions de feedback. Et là, je vais parler plutôt de voix du client. La voix du client, elle va englober les enquêtes, c'est-à-dire ce qu'on dit de votre entreprise. Et puis, les outils d'analyse, c'est-à-dire là également de l'intelligence artificielle embarquée avec les outils de sémantique qui vont permettre en fait de visualiser assez clairement quels sont les points de satisfaction, les points d'insatisfaction, les best practices, ce qu'il faut changer à l'intérieur du parcours client. Donc, c'est pour vous une vue assez claire de comment je vais pouvoir opérationnaliser des plans d'action par rapport au retour des clients qui sont faits à chaque point un peu chaud du parcours client. Donc, vraiment très intéressant et on va évidemment compléter nos offres à travers tout un écosystème de partenaires qui va nous permettre d'adresser évidemment de nombreux sujets.
Ok, bah, merci Jean-François pour ce rapide tour d'horizon d'Eloquent. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. En quelques minutes, si tu nous dis en quelques mots, quels sont les défis que vous connaissez, vous, dans le transport et de la logistique? Donc, tu nous as fait une petite synthèse en disant, voilà, quels sont pour nous ce qu'on ressent et ce qu'on voit du marché sur les problématiques à adresser?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai voulu scinder en deux parties, parce que quand on parle transport logistique, finalement, il y a deux secteurs un petit peu différents, voilà, avec des enjeux qui sont un peu similaires. Le premier secteur, on va parler de transport de marchandises. Et si je fais un petit retour en arrière quand même sur ces dernières années qui ont été riches en actualité. Il y a eu le Covid, maintenant il y a des tensions sur l'énergie, il y a
L'énergie.
des tensions sur le recrutement. Le transport de marchandises, on va dire qu'il a plutôt une forte résilience par rapport à ce qui s'est passé. D'une part, parce que si on revient sur les années Covid, eh bien, évidemment, ça a été une accélération du commerce en ligne et donc des besoins de livraison. Donc, plutôt un secteur en forte croissance. Et donc, la nécessité de s'organiser autour de ça. Autour de cette forte croissance. Et puis, de l'autre côté, j'ai le transport de voyageurs, alors qui a une plus forte sensibilité à la crise, hein, puisque, effectivement, si on revient sur les années Covid, là, finalement, il y a eu un impact fort sur le chiffre d'affaires, puisque les transports ont été à un moment donné gelés. En revanche, il y a une reprise forte de la demande depuis cet été, avec des réservations. Il y a un problème également d'alignement des ressources et des moyens face à cette demande. Hein, on entend tous parler des problèmes de recrutement, etc. Forte tension, forte reprise, mais également nécessité de recruter. Et donc, pour ces deux enjeux-là, finalement, par rapport à ces deux situations-là, la relation client, elle, redevient un enjeu majeur, puisque finalement, il va falloir prendre en considération un peu les risques qu'il y a sur les années à venir. Donc, c'est utiliser le digital pour les interactions à faible valeur ajoutée, ça, absorber les pics de demande malgré les tensions sur les effectifs. Ça, c'est intéressant aussi, parce que difficulté de recrutement, il faut faire plus
Avec moi.
à effectif constant ou avec moins. Donc, c'est une problématique qui est un vrai enjeu. C'est informer également de manière proactive les clients à travers les canaux qu'ils utilisent, d'accord? Et là, quel que soit le panel, hein, on sait que maintenant, voilà, ils veulent des réponses en instantané, toujours, tout le temps, quasiment 7 jours sur 7. Il y a une forte demande là-dessus. C'est garantir également la satisfaction client malgré les aléas logistiques. Et là, on a bien vu qu'il y a eu des secteurs en reprise où, par exemple, sur le transport aérien, cet été, ça a été compliqué, justement, dû à cette main-d'œuvre qui n'était pas encore tout à fait formée et recrutée. Et puis, un enjeu aussi majeur, avec l'augmentation finalement des coûts de l'énergie, ça va être optimiser la rentabilité et maîtriser les coûts. D'accord? Donc, il y a des fortes tensions aujourd'hui sur les prix de l'énergie. Donc, on sait que ça va se répercuter sur le client final, mais en même temps, il faut pouvoir proposer une relation client, une expérience de qualité, mais tout en maîtrisant ses coûts.
Merci Jean-François pour cette petite vision macro. Maintenant, on va passer à l'étude. Donc, en fait, pour faire simple, on a interrogé une quarantaine de spécialistes du transport et de la logistique. Grosso modo, on était quand même plus sur 2 tiers de personnes dans le transport de marchandises et 1 tiers de personnes qui étaient plutôt dans le transport de passagers. Donc, on a posé 4 questions simples. C'était quels sont les irritants? Quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont les 2 priorités d'investissement pour 2023 et que rêveriez-vous de faire? Le but pour nous, c'est simplement de savoir un petit peu s'il y a des bonnes pratiques à partager et à émerger. Donc, en fait, j'ai essayé de faire à chaque fois une présentation en 2 parties. D'abord, un constat, donc une analyse de ce que vous nous avez dit. Et la deuxième partie, où je vous ai mis quelques verbatims qui vous permettent justement peut-être d'aller récupérer des idées que vous allez pouvoir mettre en application dans votre entreprise. Alors, tout d'abord, les irritants. Alors, je pense que vous les connaissez. Ce qui est assez intéressant, c'est que les irritants sont vraiment assez universels. C'est-à-dire que la joignabilité, le fait de pouvoir joindre un service client, le temps d'attente, etc., arrive numéro 1. C'est la moitié des répondants qui mettent ça. L'irritant numéro 1, c'est la joignabilité. On sait très bien qu'un client qui attend au téléphone, qui n'arrive pas à voir une personne, va s'énerver, va monter en pression. Donc, on voit bien que c'est un des irritants majeurs sur lesquels il fait agir. Deuxième chose, tout ce qui est suivi. Retard du colis, retard du voyage, ça, c'était un tiers des répondants. Les retards et aléas, bah, ça, forcément, si on a un problème de livraison ou de production, bah, ça a un impact important. L'autre point qui est assez intéressant après, en fait, on reste plus dans l'aspect, comment dire, vraiment du métier en lui-même, on est plutôt sur la forme. La forme, c'est ne pas tenir les clients informés des problèmes. La partie proactivité, manque d'informations, etc. Ensuite, il y a la partie forme des réponses. La personnalisation, l'empathie. Là encore une fois, on voit bien qu'on n'est plus dans juste donner une réponse, mais s'il n'y a pas que donner la réponse en elle-même, il y a la forme, il y a tout ce qu'il y a autour. Et ensuite, on retourne sur les informations un petit peu métiers, telles que l'agilité, trouver des solutions alternatives. Là aussi, on voit bien que c'est un petit peu parfois monolithique, on n'a pas la main et on a un colis qui est parti, on a des voyageurs qui attendent sur un quai, on n'a pas la possibilité de faire quelque chose. Dans une moindre mesure, on voit qu'il y a aussi une volonté d'aller améliorer un peu plus tout ce qui est traitement des litiges, le traitement des réclamations, où en fait, on voit que certains clients ne reçoivent pas satisfaction ou dans les temps. Et parfois, vous l'avez dit sur l'étude, les gens vont se plaindre sur les réseaux sociaux. Voilà. La qualité des informations fournies, ça aussi, vous nous dites, c'est un problème parce que les clients rentrent mal les informations ou il n'y a pas les bonnes, les digicodes, etc., etc. La livraison en elle-même, parfois, on le verra, ça peut être le livreur qui est un petit peu trop brutal avec les colis et qui a forcément un impact sur la forme du colis. La méconnaissance ou le manque d'expertise des conseillers, ça, on le verra. Et justement, avec un cas client, on vous montrera comment on peut améliorer cette partie expérience grâce à l'analyse sémantique ou l'écoute. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand tout va bien, c'est juste normal. Le client, il s'attend juste à recevoir. Quand il y a un problème, par contre, c'est le service client qui est en ligne. Et c'est ce que nous a dit Vianney Leveugle de Geodis. Je vous en parlerai juste après. Il nous dit clairement que la première raison de satisfaction, c'est quand la livraison se passe bien. Et ensuite, c'est le service client. Et quand ça se passe mal, la première raison de satisfaction, c'est le service client. Et le service client est tout le temps numéro un, en fait. Alors, bien entendu, on le verra, il vaut mieux que ça se passe bien et que ça se passe sans couture. La clé étant de tenir le client informé, quelle que soit la forme, le canal, et de miser sur la proactivité. Si on rentre sur les verbatims que vous avez mis, donc j'ai mis en vert tout ce qui concernait la logistique, le transport de marchandises, et ici en bleu tout ce qui était la partie transport de personnes. Donc en fait, voilà, les petits verbatims, vous les connaissez, c'est ne pas avoir quelqu'un au téléphone, ne pas être prévenu, la proactivité, ne pas laisser dans l'attente un client, même sans avec une réponse négative, si on ne sait pas l'information, le client il se dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne me rappelez pas. L'absence de logique dans les réponses formatées, trop de formalisme, pas assez de personnalisation. Les informations de tracking qui manquent, une expérience non personnalisée, un client qui ne semble pas écouté, un manque d'empathie, pas de solution alternative de livraison ou de routage, parcours réclamation fastidieux, les livraisons dans un relais colis alors que la personne attend une livraison chez lui, une manipulation brutale, comme je vous le disais, ne pas respecter les demandes des clients parce que ce n'est pas possible ou ce n'est pas fait en agence, les problématiques de sous-traité. On voit aussi qu'il y a beaucoup de sous-traitance dans le transport et donc forcément, il n'y a pas la même qualité parce que les gens ont une pression sur le résultat. Donc ça, c'est les irritants. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de se faire un focus sur les bonnes pratiques. Parce que les bonnes pratiques, finalement, ce que vous avez remonté dans l'étude est assez intéressant parce que je trouve qu'il y a des choses qu'on peut reprendre très simplement dans l'entreprise. Là, ce qu'on remarque, la première chose, c'est que j'ai vu que autant les irritants étaient partagés par tout le monde et il y avait vraiment un focus sur l'aspect joignabilité, autant sur les bonnes pratiques, déjà, c'était un petit peu plus diffus. Par exemple, tout ce qui est amélioration au niveau des outils de la relation client, je ne parle même pas du CRM, mais les outils de la relation client, chat, solution de centre de contact, c'était véritablement dans les bonnes pratiques qui ressortaient le plus, mais c'était un quart d'un répondant. La diffusion de la voix du client, en quête de satisfaction, club client, etc., c'est également un quart d'un répondant. Et après, derrière, on arrive sur des pourcentages un petit peu plus faibles. La communication proactive, l'automatisation, le self-care, les nouveaux services tels que les nouveaux services de suivi qui sont proposés par les transporteurs. La formation des agents, la gestion des réclamations, la mise en place d'un CRM, c'était des choses qui sont remontées, mais moins massivement. On voit bien qu'il n'y a pas une solution pour améliorer l'expérience client et la relation client dans le secteur du transport et de la logistique, mais il y en a plusieurs selon la situation de l'entreprise. Par exemple, dans certaines entreprises, le CRM n'est plus un projet central parce qu'il y a un outil qui est mis en place, ou alors c'est trop compliqué, on le verra tout à l'heure dans la partie rêve. On est plutôt souvent dans une modernisation. Dans l'ajout de nouveaux canaux, où il y a vraiment un travail important à jouer là-dessus. La gestion des réclamations et la diffusion de la voix des clients aussi, on voit que c'est des bonnes pratiques qui remontent. Le fait d'avoir une orientation culture client, de faire rentrer la voix du client dans l'entreprise, ça permet de sensibiliser et d'aller faire en sorte que lorsqu'il y a un problème, le client se sent écouté. Et c'est pas en fait juste, voilà, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Et on verra tout à l'heure justement avec Jody, c'est un cas intéressant où on passe d'une mentalité entre guillemets SAV à une mentalité customer-centric, centré sur le client. Donc, la proactivité importante pour réduire l'insatisfaction et l'exaspération et le self-care qui peut être une solution, mais on verra bien que vous le dites que pour les demandes simples. Donc, les bonnes pratiques, déploiement du NPS, les directeurs d'agence s'approprient la réputation de leur agence en local, ils peuvent agir et animer l'ensemble des collaborateurs autour de leur performance. L'enquête de satisfaction, mise en place de mesures de perception client liées à une réclamation, sondage client régulier, enquête de satisfaction via QR code directement dans les agences, dans les gares, etc., etc. Le déploiement d'un premier outil de relation client, Microsoft CRM. Un vrai succès de l'émergence d'une communauté de services clients, centraliser toutes les demandes dans un CRM, mail, appel, etc. Je parle de Salesforce là. L'accompagnement des collaborateurs à travers différents projets. Là encore une fois, c'est faire participer les clients au projet d'amélioration qui est excellent pour améliorer la culture client et l'implication. On parle bien de symétrie des attentions par exemple. La proactivité, tenir les clients informés même en cas de mauvaise nouvelle. Le tracking mis à disposition, agir en proactif, les renforcements du SAV avec des équipes en plus. On verra que c'est. Ça sera un peu du domaine du rêve. On voit plutôt que ce fameux renforcement avec de nouvelles équipes, ce n'est pas forcément d'actualité. C'est ce que vous nous remontez dans l'étude. On est plutôt à faire, comme disait Jean-François, autant mieux avec autant d'effectifs, voire un petit peu moins. Donc, dans le transport aussi de personnes, aller à la rencontre du client, créer des interactions par le regard, le bonjour. Donc, ça passe par de la formation et la culture client. La mise en place de revues d'activité, on est vraiment dans l'amélioration continue, transparence face aux problèmes, communication via des réunions trimestrielles internes à l'entreprise, des outils de livraison en temps réel. On nous parle des outils d'Amazon, d'UPS, de DPD qu'on reçoit, des multiplications des points de livraison, Amazon, Peak Time, etc., etc. La formation, l'écoute active, la formation des agents, l'écoute directe via un club local. L'utilisation de nouveaux canaux, WhatsApp et le chat. On a vu le chat qui arrivait plusieurs fois. Je vous ai mis que deux cas ici, mais pas mal de personnes nous ont dit, ah, le chat a permis de faire une différence parce qu'on discute, c'est du temps réel, etc. Donc la dimension digitale via les réseaux sociaux également et les bots. Si on parle des priorités, les priorités pour 2023, j'ai demandé quelles sont les deux priorités. Et là, en fait, c'est un petit peu en rapport qu'il y a là avec ce qu'on a vu précédemment. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui n'ont pas un CRM au niveau, au niveau du marché, veulent changer de CRM. C'est un point central. Mise à jour ou mise en place d'un CRM pour un quart des répondants, c'est assez énorme parce que autant dans les bonnes pratiques, le CRM n'arrivait pas dans les premiers, autant en fait dans les priorités, les gens qui n'ont pas de CRM veulent le mettre en place. La formation des agents aussi, un quart des répondants, les outils de relation client, ticketing, centre de contact mise à jour, nouveaux canaux, etc. Priorité sur la réactivité, le FCR, First Contact Resolution, l'expérience client et le parcours client qui ont été optimisés, les enquêtes de satisfaction et la sémantique. Dans une moindre mesure, le programme culture client, parce qu'on travaille d'abord sur les outils, parce qu'on sait très bien que si on travaille ici, on aura des résultats rapides, tandis que la culture client, on sait très bien que ça va durer plusieurs mois, plusieurs années. Les nouveaux canaux également, SMS, réseaux sociaux, l'omnicanal, la data, les données initiales et tout ce qui est RSE, tracking, etc., etc. Ça, ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Le recrutement, la qualité des réseaux, la personnalisation des échanges. Bref, on peut voir que les entreprises qui n'ont pas un CRM modèle s'équipent. Les autres sont plutôt à la recherche d'outils qui vont de manière opérationnelle et rapide améliorer cette expérience client et ce parcours client. Et on voit que les outils métiers, assez bizarrement, ne sont pas au cœur des priorités parce qu'on peut se dire qu'il y a déjà l'essentiel qui est mis en place et donc on n'arrive pas à trouver des choses pour aller beaucoup plus loin sur les livraisons interactives, alternatives qu'on parlait précédemment. Les verbatims, on voit bien ici, j'ai bien aimé ce premier verbatim qui est lancer la culture client, sensibilisation, formation, car l'expérience client sans culture client, c'est comme avoir une Ferrari en laissant le frein à main, avec une citation de Daniel Ray que je trouve excellente et je vous recommande d'ailleurs son livre Culture client. D'ailleurs, on aura son compère Guillaume Antonietti qui participera à notre CX Summit là, le 24 novembre prochain, qui nous expliquera justement les clés pour livrer et mettre en place une culture client. Faire diagnostic du système de téléphonie, améliorer la réponse des clients, le ticketing, développer un CRM, référentiel unique, plateforme unique, formation des équipes, FCR, réduction de l'effort client. Ça, on l'a vu, réduire l'effort client, c'est vraiment essentiel. Après, on voit sur des choses un peu plus métier, la sonorisation en gare, la billetterie humaine, la mise en place d'un dispositif voix du client, etc., etc. Si je finis sur les rêves, parce que là on a vu les priorités, on voit sur les rêves sont peu nombreux, puisqu'en fait, il y a très peu de gens, finalement, il y a à peine les 20% des gens qui m'ont dit, voilà mon rêve. Finalement, est-ce que vous êtes fataliste? Est-ce qu'on se dit bah, que finalement, on ne peut pas faire grand-chose, on est déjà arrivé au top? C'est de manière assez étonnante, il y a eu assez peu de rêves, à part de se dire, tiens, je voudrais un CRM 360 où on met tout à jour. Plus d'humains et moins de robots. Là aussi, c'est remonté assez souvent. Donner les moyens aux collaborateurs de faire leur travail avec des bons outils, simplifier les process, en particulier dans les grandes entreprises. Et à l'inverse, certaines personnes disent non, il faut automatiser parce que le client veut de la réactivité, être plus customer-centric. Voilà. Si je vous mets quelques verbatims, je vous laisserai les découvrir, mais avoir un conseiller client qui suit un client de A à Z, mettre des collaborateurs en situation de performer, simplifier les process, avoir un contact direct avec les agences. Invitation des clients dans les agences, on parle toujours de ce fameux club client, un CRM évolué, avoir un référentiel client unique, un CRM plus performant, augmenter l'expertise des conseillers, limiter l'usage du bot à des cas simples, un clic et renvoie un humain si une incompréhension, ajouter de l'humain à la relation client, etc., etc. Bref, je vous laisserai découvrir ça, mais vous verrez qu'il y a une volonté à la fois d'automatiser, mais également de remettre l'humain au centre. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans les cas pratiques qu'on vous a prévus, eh bien justement, c'est un des sujets centraux. Alors, les cas pratiques, on vous a prévu 6. Donc, il nous reste encore un petit peu de temps. Donc, on va essayer de ne pas trop déborder, une dizaine de minutes qu'on a ensemble. Donc, le cas pratique numéro 1, c'est un cas que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est Geodis. Geodis, en fait, j'ai eu l'occasion deux fois d'animer une table ronde avec Vianney Leveugle, donc le directeur commercial, service client et marketing de Geodis. Et c'est vrai que vous pourrez regarder ici, je vous renvoie sur les deux conférences. Donc, une conférence qu'on a animée ensemble il y a 3 ans de cela, sur la mise en place initiale du programme Culture Client au sens large chez Geodis, et ensuite le bilan 3 ans après. C'est vraiment passionnant parce que Vianney nous a vraiment présenté de manière tout à fait transparente des indicateurs clés avec des évolutions du NPS, leurs priorités, etc., où ils nous ont bien expliqué que leur but à eux, c'était de passer d'une culture SAV, où tout simplement on répondait aux clients, etc., à une culture client. Et c'est vrai que quand ils mettaient en place ce programme de culture client, les clients qui les appelaient au téléphone disaient, ah, vous êtes passé à ce programme culture client, vous aussi, parce que ça s'entendait dans la voix, dans l'implication des collaborateurs. Donc, ils sont passés par ce programme-là avec une analyse avec 7 points de contact clés et tout simplement des 3, 4 points majeurs à étudier. Les résultats sont vraiment impressionnants puisqu'ils ont eu un NPS en hausse, un classement élu service client de l'année qui était en super croissance et des équipes surmotivées. Je vous laisserai bien sûr regarder la vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est que Geodis a identifié 7 points de contact. Le site web, la force de vente, le portail, les livreurs, la relation client, la facture et les agences. Et en fait, ils ont dit à chaque fois, sur ces différents points-là, on va agir. Sur le service relation client, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agi de plusieurs manières. Ils ont mis en place une solution de centre de contact éloquent qui leur permet en fait de suivre avec des indicateurs. Ils ont équipé les personnes en agence de cette solution de centre de contact avec des bureaux, avec du matériel téléphonique, avec des écrans sur les indicateurs. Les gens sont passés des quais de livraison à un bureau spécifique avec donc du matériel qui leur permet de faire mieux leur travail, des enquêtes de satisfaction systématiques sur les clients. Ce qui est intéressant, c'est que donc ils ont travaillé sur un programme hyper complet que je vous invite à regarder. Donc au début, ils ont fait une formation plénière de 2 jours sur place, donc vraiment mettre les personnes dans un moment où ils vont se dire, ouais, il y a quelque chose qui a changé, c'est pas que du discours, c'est de la réalité. Ils ont mis en place un serious game pour leur apprendre après à maîtriser tout ce qu'ils ont appris pendant ces 2 jours. Une formation d'orthographe pour tout ce qui était l'écrit, l'accompagnement managérial avec de la routine d'écoute, etc., etc. Ils ont réorganisé les services, comme je le disais, renforcé le rôle des managers, amélioré les conditions de travail, comme je le disais, avec le matériel, avec la salle, etc., etc. Une meilleure distribution des appels, l'analyse, la mesure de la satisfaction client systématique. Voilà, les 3 points avec organisation, formation. Des routines managériales, tout simplement, c'est de l'écoute, c'est des remontées, c'est un comparatif entre ces différentes régions sur les performances de différentes régions. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant. Mais également, ce que disait Vianney, et je vous invite vraiment à regarder sa vidéo, c'est à la fin, il indique bien que pour réussir une excellence opérationnelle, il faut combiner digital et humain. Et là, en fait, il mettait en avant l'application qui permet en fait de suivre en fait la livraison du chauffeur avec la possibilité en fait pour le chauffeur d'appeler directement le client pour dire tiens, j'arrive à telle heure, etc., etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Dans les bonnes pratiques aussi chez Geodis, c'est vrai que l'analyse sémantique des verbatim clients a permis, par exemple, d'identifier qu'il y avait des effets waouh. Le fait, par exemple, pour le chauffeur d'aller prendre le colis et le monter à l'étage, mal qu'il soit lourd, c'était des choses qui arrivaient peu souvent, mais qui remontaient comme des effets waouh dans les enquêtes. Et c'est vrai que ben, grâce à ça, en fait, Geodis a proposé après un service payant de montée à l'étage qui est proposé à ses clients transporteurs. Alors, Jean-François, je te laisse peut-être parler du cas pratique numéro 2. Ah, t'es en mute.
Merci de m'avoir signalé. Oui, je vais vous parler là d'un client chez nous qui était client chez qui est en fait un transporteur spécialisé dans le transport adapté de personnes qui sont handicapées. Donc, le sujet, il est complexe parce que là, on est vraiment sur du transport sur mesure avec des horaires qui sont à la carte, à la demande par les usagers. Et puis évidemment, l'aspect relation client, expérience client ici est très forte, puisque on a vraiment pas le droit de se louper sur ce genre de transport. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. C'est-à-dire que si je vais chercher quelqu'un, je l'amène et que ben, j'oublie de le ramener chez lui, il y a quand même un problème majeur. Donc voilà. Donc là, on est face à une entreprise en fait qui a repris une activité de transport adapté, et sur l'Oise. Donc, l'enjeu pour eux, c'était reprise d'activité. Donc, il faut reprendre, ben, effectivement, toute la logistique, c'est une chose, mais également reprendre le service client, c'est-à-dire comment je vais communiquer finalement avec l'ensemble des usagers. Et donc, la période était très courte, c'est-à-dire la reprise a été très courte. Donc, il a fallu former les conseillers à la solution de centre de contact, aux nouveaux outils informatiques, déployer évidemment cette solution. Et puis, pour eux, avoir ben, les outils de pilotage qui permettent de savoir aussi, effectivement, quels sont les indicateurs de SLA, quels sont les indicateurs de qualité de service envers les appelants. Voilà, fort enjeu parce que déploiement sur une période très courte. Ce qu'on a mis en place, c'est la solution de centre de contact avec l'accueil vocal. C'est une distribution intelligente des appels en fonction des typologies de demandes. C'est une vue 360 avec une intégration avec leurs outils CRM. Et puis, des systèmes de callback sur le site Internet, vraiment pour que ce soit fluide, hein, qu'on ait à la fois système téléphonie, mais un parcours client web qui soit fluide. Et puis, ben, tous les outils de supervision temps réel et de reporting qui permettent de s'assurer que l'on ne rate pas les appels et qu'on comprend bien en compte finalement l'ensemble des demandes qui ont été émises par les usagers. Donc voilà aujourd'hui ce qui a été mis en place au sein de ces structures qui maintenant fonctionnent depuis 3 ou 4 mois et qui sont finalement très contents justement d'avoir pu mettre en place si rapidement les solutions à destination des usagers.
Merci Jean-François pour ce cas client. On va passer au cas pratique numéro 3. Alors donc c'est un cas pratique dans le domaine du transport, mais là on est plutôt sur la gestion des usagers avec Vinci Autoroute, Ulysse. Donc en fait là encore une fois j'ai eu le plaisir de co-animer un webinaire, enfin une conférence live avec Julie Vosinski d'Ulysse Vinci Autoroute. Et donc en fait leur objectif et leur problématique chez eux c'est qu'en fait durant les périodes estivales il y a des pics de demande, tout le monde part en vacances et les autoroutes en fait sont très chargées. Donc en fait, ils sont obligés de faire appel à des intérimaires et à des prestataires externes pour renforcer les équipes du service client. Le problème en fait, c'est que durant ces périodes-là, au début en fait, les gens connaissent pas très bien tous les systèmes, tous les types de clients, toutes les réponses. Et donc, ils constataient une augmentation de l'insatisfaction, grosso modo, de 6 points durant cette période estivale. Et c'était un petit peu long le temps de coacher les équipes, savoir qui fallait, qui fallait aider sur quel sujet, etc., etc. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, tout simplement, ils ont mis en place un dispositif de feedback client, donc toute l'année, hein, 120 000 enquêtes répondues par an, 40 000 verbatim collectés. Et ils ont fait en fait une analyse sémantique, à la fois des enquêtes de satisfaction, à la fois des chats sur le site Internet, à la fois des scans, des papiers scannés, et en fait, ça permet d'identifier, donc, un, Lors des pics estivaux, les agents où il y a une insatisfaction, le client n'est pas content, ou alors des indications mal, des qualifications mal faites au niveau du centre de contact. Les gens disaient voilà, c'est du autre, alors que ça peut être un sujet particulier. Avec ce travail-là, ils ont réussi donc à coacher les équipes et désormais, on est arrivé à une analyse quasiment temps réel. Là, pour l'instant, ils sont une analyse hebdomadaire. Donc, d'une semaine à l'autre, ils sont capables en fait d'aller identifier les agents qu'il faut coacher sur ces sujets. Est-ce que c'est des sujets d'abonnement? Est-ce que c'est des sujets de paiement, etc., etc. Et ils ont comme ça réduit par deux l'insatisfaction. Au lieu d'avoir une insatisfaction qui a augmenté de 6 points, c'est une insatisfaction qui a augmenté seulement de 3 points. Et l'année prochaine, ça devrait encore s'améliorer, puisque là, ils sont sur une vision à la semaine et ils vont passer à une vision à la journée, donc être capable d'identifier les conseillers qui ne font pas tout à fait correctement leur travail, en particulier, comme je disais, les intérimaires. En même temps, cet outil-là, cette analyse sémantique des différents outils, permet de générer du business. Parce que tout simplement, ils sont capables d'aller identifier lorsque, par exemple, une personne envoie un courrier en disant « je résilie mon abonnement à Ulysse parce que j'ai pris ma retraite », ils sont capables comme ça d'aller scanner, identifier que c'est prise de retraite, j'ai plus mon activité de commercial et j'ai plus besoin de mon badge, et faire du rebond commercial en disant « hey, d'accord, vous n'avez plus besoin de votre abonnement en tant que commercial, mais vous savez qu'en tant que particulier, pour X euros par mois, vous pouvez avoir toujours un badge, mais à titre particulier, et ça peut vous servir pour partir en vacances, quand vous faites un truc, etc. etc. » Donc, ça fait du rebond commercial et donc une génération de business. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est vraiment de l'omnicanal avec de l'analyse à la fois du chat et des enquêtes, etc., etc. Alors, le cas pratique numéro 4, c'est un cas pratique avec un de nos partenaires dans le domaine du bot. En fait, c'est une société de transport de colis nationale française, très connue, qui veut renseigner ses clients en dehors des horaires d'ouverture. Puisque il y a des clients qui sont à l'étranger, il y a des clients qui n'ont pas Internet et il y a des clients qui sont un petit peu allergiques aux outils informatiques et ils veulent appeler au téléphone et ils veulent avoir la réponse à leurs questions. Et donc, quand ils appellent dans les horaires de bureau, tout va bien, mais quand ils appellent après 19h, après 20h, après 21h ou tôt le matin, ils sont un petit peu coincés. Pour l'instant, il n'y a pas de solution et ils se retrouvent un petit peu insatisfaits. Et donc, le challenge a été de mettre en place un callbot en dehors des heures d'ouverture qui justement va permettre de répondre à la voix aux demandes des clients avec une détection en fait, des numéros de colis. Ça, ce n'est pas évident parce que vous savez comme moi que les structures de numéros de colis sont assez complexes avec des chiffres, des nombres, etc. Et la solution a été de permettre justement d'aller identifier ces différents numéros de colis, de pouvoir les dicter à l'oral et de pouvoir comme ça faire un suivi du colis au client. Donc, ça a remplacé le SVI actuel en dehors des heures de routage pour tout ce qui est de traitement, des heures d'ouverture du bureau. Et ça a permis de faire du routage intelligent, donc router par exemple sur des services particuliers ou alors faire un traitement direct en disant votre colis a été livré à telle heure, est-ce que vous voulez le livrer à une autre période, est-ce que vous êtes disponible, pas disponible, etc. etc. Donc, ça a permis vraiment de retravailler tout totalement l'expérience client en dehors des heures d'ouverture. Le cas pratique numéro 5, le dernier que je vous ai cité aujourd'hui, c'est un livre en fait qui a été écrit par Jonathan Lefebvre, qui a été en fait membre de la startup Captain Train, qui maintenant s'appelle Trendline. C'est un livre que je vous recommande de lire. C'est en fait l'obsession du service client. Il explique en fait dans son livre comment il a réussi à faire en sorte que le service client soit un facteur d'enchantement chez Captain Train. Et pour lui, en fait, il a remonté 6 bonnes pratiques à retenir. La première, en fait, c'est être très rapide sur la prise en charge. Pour lui, et il l'a dit, et c'est ce que vous venez de remonter dans les irritants initiaux, le délai de traitement est essentiel. Et le but, c'est pas forcément de répondre au client, lui donner une solution, mais c'est au moins de répondre au client. Et tous ces efforts ont été faits pour tout simplement être capable de répondre le plus rapidement possible, quel que soit le canal, réseaux sociaux, téléphone, chat, et répondre aux clients, même si c'était un simple accusé de réception, même si c'était je dire OK, on prend votre demande, etc., etc. Deuxième chose, il disait il faut utiliser son produit et devenir un expert sans se forcer, et c'est en utilisant son produit qu'on voit les points faibles en interne pour faire de l'amélioration continue. Troisième point, faire du client la préoccupation des salariés, pas juste du service client, diffuser la culture client, prendre le temps de résoudre les problèmes à la source et d'améliorer son produit. Et je vous ai mis ici son petit graphique où il expliquait que ici on a une hausse des inscrits à Trendline et ici en fait c'était le nombre de tickets qui avaient été ouverts à la hotline. Et on voit bien que ça, on a vraiment un inscrit qui est enfin, un nombre d'inscrits qui est exponentiel, qui augmente le nombre d'inscrits. Par contre, le nombre de tickets n'a pas bougé parce qu'ils ont travaillé sur la fluidité, ils ont travaillé sur l'anticipation, ils ont travaillé sur la proactivité, etc., etc. Et il a dit, voilà, faut vraiment investir dans les outils de support interne, améliorer le produit, le back-office, la base de connaissances, le parcours client et réduire l'effort client. Et tout simplement, agir plus que promettre, admettre ses erreurs. Donc, si vous êtes intéressé, je vous ai mis ici une petite interview que j'ai fait de lui et qui est assez intéressant sur comment on va améliorer la qualité. On avait dit qu'on essaierait de tenir une demi-heure. On a dépassé déjà de 5 petites minutes. Ce qui était intéressant de savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que l'excellence opérationnelle reste la base. Il faut promettre et livrer ce qu'on a promis au client. La meilleure expérience client, c'est quand tout va bien. Le meilleur appel au service client, c'est celui qui est évité. Donc, l'excellence opérationnelle prime avant tout. Mais quand il y a des problèmes, à ce moment-là, tout simplement, c'est le service client qui est en première ligne. Les clients ont de nouvelles exigences qui sont de plus en plus importantes et il ne faut pas hésiter à faire du benchmarking puisqu'en fait, les clients ne vous comparent plus par rapport à vos concurrents, mais ils vous comparent par rapport aux meilleurs de la classe. Ça peut être des Maïf, des Amazon, etc., etc. Parce que tout simplement, c'est le service qu'ils trouvent le plus excellent. Ils se disent, mais pourquoi moi, je n'aurais pas le même niveau? Pourquoi vous ne faites pas comme eux? On voit ici que le digital doit enrichir et améliorer la relation client. Et pas l'inverse, il ne faut pas tout digitaliser parce qu'autrement, en fait, on perd cet aspect humain et on robotise et on voit des clients qui sont bloqués. C'est pour ça que nous, quand on fait un chatbot ou un callbot, on insiste fortement sur le fait que dès que le client est bloqué, il faut passer à un agent. Par exemple, quand on fait un callbot là pour Enedis, tout simplement, on sait qu'il y a que dès qu'il y a deux fois des incompréhensions sur une intention, sur un code postal, sur quoi que ce soit, il faut passer sur un agent parce que ça permet comme ça de rattraper l'expérience client et de faire en sorte que le client ne soit pas bloqué dans un coin et coincé dans un bot. Voilà. Lors des moments de vérité, le service client réactif est une des clés. Le plan d'action, il est simple, hein. Ce qu'on vous invite à faire, c'est d'ici un mois, faire un benchmark en fait, tout simplement des best practices du secteur. On vous a donné quelques-unes lors de l'étude qu'on a mis ensemble en place. Identifier les quick wins que vous pouvez mettre en place dans l'entreprise. Lancez une enquête auprès de vos clients sur les irritants et les effets waouh. D'ici 3 mois, complétez votre dispositif d'écoute, à la fois pour rattraper les problèmes, pour diffuser la voix du client, mais également pour trouver des idées. Définir des points d'optimisation client et créer un effet waouh, tout simplement. Définir des SLA et communiquer en interne, puisque avec ces SLA, on se dit, tiens, on essaie de répondre dans tel délai, tel truc. La rapidité est essentielle. Et d'ici 9 fois, diffuser la voix du client dans toute l'entreprise et diffuser la culture client. Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée avec un callbot, un chatbot, des formulaires et redéfinir les canaux de communication prioritaire. On a parlé de l'importance du chat dans cet effet waouh qui est de plus en plus demandé. Voilà, donc on a essayé de tenir le timing. Merci à tous pour votre attention.